Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 3, proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'académiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'Académie MEDEF. Aujourd'hui, le sujet que nous traiterons s'appelle « Droit à l'expérimentation, dépasser un blocage législatif et réglementaire pour tester vos innovations ». Et donc, nous accueillons Arthur Ravier, chargé de mission innovation, à qui je vais laisser la parole. Alors, ce webinaire sera enregistré et diffusé ensuite sous forme de podcast. Nous vous enverrons également le support de présentation à l'issue de la session. Et pour le bon déroulement, nous vous remercions de bien vouloir couper vos micros. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat et nos intervenants se feront un plaisir d'y répondre. Bonne journée à tous.
Bonjour à tous. Donc Arthur Ravier, direction innovation du MEDEF, et j'ai le plaisir de pouvoir introduire donc pour la deuxième fois, vu que c'est la deuxième fois que messieurs Malangeau et messieurs Hébrard nous font le plaisir de venir au MEDEF pour présenter France Expérimentation, un service donc de la direction interministérielle de la transformation publique et donc rattaché au service du Premier ministre, il me semble. Et je leur laisse la parole dès maintenant.
Bonjour, merci beaucoup Arthur et merci à vous, merci au MEDEF de nous accueillir et de nous donner l'occasion de présenter France Expérimentation. Je suis Sébastien Malangeau et avec mon collègue Olivier, on va vous faire cette petite présentation qu'on veut assez concentrée pour laisser du temps aux échanges. Alors, je vais faire la première partie, un petit peu la description globale, et puis Olivier rentrera un petit peu plus dans les exemples. Donc, France Expérimentation, c'est un programme interministériel qui a été lancé en 2016, on pourrait dire, dans une phase un peu de test, et qui a été rénové et élargi en 2018, et qui vise à permettre à tout acteur économique qui est confronté à un blocage qui l'empêche de développer son bien ou son produit innovant, de pouvoir solliciter les pouvoirs publics et la solution de départ. Ah voilà, je crois que je vais vous laisser. C'est parti. Merci monsieur. Donc effectivement, l'idée c'est vraiment de permettre à tout acteur qui développe un bien ou un service innovant et qui veut le mettre sur le marché français, et qui, selon son analyse, ne peut pas le faire au regard d'obstacles juridiques liés à la réglementation française, de solliciter les pouvoirs publics avec cette possibilité, si la demande est acceptée, de tester une évolution du droit dans un cadre temporaire et expérimental. Donc c'est vraiment l'idée de France Expérimentation. Ça s'inscrit plus globalement dans la dynamique du droit à l'expérimentation qui est consacrée par l'article 37.1 de la Constitution. Et donc, c'est France Expérimentation, voilà, c'est vraiment un programme interministériel. On est placé sous l'autorité du délégué interministériel à la transformation publique, et donc qui est lui-même rattaché au Premier ministre. Donc, on est placé sous l'autorité du Premier ministre. Alors, très concrètement, comment savoir si un projet est éligible à France Expérimentation. Nous, au secrétaire de France Expérimentation, Olivier Hérard et moi, qui avons qui assumons cette fonction et cette tour de contrôle, on va d'abord vérifier les conditions d'éligibilité première. Alors, la première chose, c'est d'être un acteur économique. Alors, la notion est volontairement très ouverte. Il n'y a pas de question de statut. On peut être un étudiant ou une personne individuelle qui envisagerait de monter sa société. On peut être une PME, une start-up, un grand groupe international, on a tous ces publics-là. L'idée, c'est qu'il y ait effectivement une dimension économique dans le projet qui doit se développer. Donc, ça ne veut pas forcément dire une dimension commerciale au sens strict, mais voilà, c'est un dispositif qui est porté par, on va dire, la sphère un peu économie et bercienne de l'administration. Donc, cette dimension est importante. Il faut que le projet soit innovant. De la même façon, le concept d'innovation est entendu au sens large. Donc, ça a été d'abord conçu pour l'innovation technologique, mais c'est véritablement ouvert à à tous les types d'innovations. Donc nous, on a vraiment comme règle de considérer que si vous avez une solution, que ce soit un produit ou un service que vous voulez mettre en place en France, et voilà, que vous estimez que ça n'est pas possible, c'est innovant au regard du droit français. Donc peut-être que ça existe déjà dans un autre pays, mais dès lors que ce n'est pas possible chez nous, c'est parfaitement légitime, enfin la demande est parfaitement recevable de notre côté. Et enfin, c'est un point important, France Expérimentation, c'est un outil pour lever les blocages juridiques. Donc les blocages aussi bien législatifs que réglementaires. Législatif, donc c'est ce qui relève de la loi qui est votée par l'Assemblée et le Sénat. Et le réglementaire, c'est ce qui est à la main de l'administration, du gouvernement. Et donc c'est des décrets, des arrêtés notamment. Ce qu'on ne peut pas traiter, c'est des blocages qui relèveraient d'une décision d'une collectivité locale, du fait du principe d'autonomie et d'indépendance. Donc si ce qui empêche le développement d'un projet innovant, c'est une disposition d'urbanisme d'une collectivité locale, l'État ne serait pas en mesure d'aller imposer à une collectivité de changer ses règles pour permettre le développement de ce projet. Donc c'est vraiment des blocages qui doivent être au niveau de l'État. Après, la France étant un pays quand même très centralisé, une très grande partie des règles en matière d'exercice ou de mise sur le marché de produits sont à ce niveau-là. Et enfin, et là ça devient un petit peu plus subtil, on ne peut pas déroger à une norme qui serait d'un niveau supranational. Donc évidemment, si c'est une obligation européenne de la France pourrait pas toute seule décider de ne pas respecter ses obligations européennes. En revanche, ce qui est important de vous préciser, c'est que nous n'imposons pas aux personnes qui nous sollicitent d'avoir fait cette expertise fine. Si vous êtes juriste ou que vous faites appel à un cabinet d'avocats et des juristes, c'est très bien. Mais l'idée de France Expérimentation, c'est vraiment que les acteurs puissent nous signaler quels sont les blocages, selon leur analyse, qui empêchent le développement de votre projet. Donc si vous nous sollicitiez et que vous ne savez pas si le point bloquant est d'un niveau européen, que ça a été prévu par un règlement, une directive, ou si c'est une disposition franco-française, ce n'est pas votre responsabilité de le faire, c'est bien celle de France Expérimentation, de solliciter les ministères. Et dès lors que vous nous dites, a priori, l'article X me semble empêcher le développement de mon projet, on va demander au ministère de faire cette analyse. Donc voilà, dès lors que le projet a été accepté, qu'on est bien sur une dimension juridique, je me permets peut-être d'apporter une dernière petite précision. On est vraiment supposé, voilà, traiter des sujets qui sont fondamentalement juridiques, qui peuvent avoir bien sûr des impacts financiers, mais si le cœur du problème qui vous empêche de développer votre projet, c'est plutôt un aspect fiscal ou budgétaire, voilà, il n'est pas certain que, in fine, le cabinet premier souhaite le traiter via ce canal. Il faut que votre projet, voilà, puisse se faire dès lors qu'on pourrait lever la norme. Donc, si le problème juridique consiste à changer un taux de TVA, ça répondrait pas totalement à l'esprit de France Expérimentation. Mais ensuite, on a beaucoup de projets où il y a un deuxième impact financier ou fiscal, et voilà, c'est des choses qu'on apprécie avec vous. Donc ensuite, pour vous expliquer très concrètement comment on fonctionne, et avant de passer la parole à Olivier, donc on fonctionne de deux façons. La première chose peut-être à préciser, c'est que le secrétariat du dispositif que Olivier et moi pilotons est ouvert en permanence. Donc nous, on est toujours à votre disposition. Si vous avez une interrogation sur l'éligibilité de votre projet ou des interrogations sur ce que peut faire ou pas France Expérimentation, vous pouvez déposer une demande auprès de nous, nous contacter par mail et on organisera un échange avec vous. Ensuite, on fonctionne selon deux canaux. C'est un petit peu subtil. On est ouvert en permanence pour traiter les blocages réglementaires. Pourquoi on peut les accepter en permanence? Parce que si le Premier ministre, in fine, décide de donner une réponse favorable à votre demande, c'est l'administration, enfin c'est le gouvernement lui-même qui va modifier les règles, puisque c'est lui qui les produit, donc il peut les modifier, on va dire, à sa guise. En revanche, si le blocage qui limite votre projet ou qui le rend impossible est prévu par la loi, il faudra qu'on passe par la loi pour modifier votre projet. Et dans le processus législatif, il n'est pas possible de traiter d'un sujet qui ne serait pas en lien avec l'objet de la loi. Il y a ce qu'on appelle l'interdiction de cavalier législatif. Donc, par exemple, si votre projet concerne un projet dans le domaine de la culture, ça n'est pas dans le domaine des énergies renouvelables qu'on pourrait traiter de votre projet. Et donc pour ce faire, pour ne pas pénaliser les acteurs et dire votre projet est très intéressant, mais là on n'a pas à horizon court un projet de loi qui pourrait porter la dérogation vous permettant de le développer, on ouvre des appels à projets, c'est-à-dire des fenêtres de temps, où on sait qu'à horizon relativement court de quelques mois, on pourra avoir un texte qui permettra de régler votre situation si votre demande est acceptée. Donc quand c'est des blocages au niveau de la loi, on est ouvert temporairement, et quand c'est des blocages réglementaires, on est ouvert tout le temps. Encore une fois, si vous ne savez pas, on ne vous demande pas d'être un expert en droit public, donc c'est à vous de nous indiquer quel est le blocage juridique, mais c'est l'administration elle-même qui va analyser pour bien clarifier ce qui relève du niveau de la loi ou non, et donc on ne pourra pas les traiter de la même façon. Mais voilà, vous pouvez arriver en listant une série de mesures et ne pas vous-même être des experts sur est-ce que c'est un point législatif ou réglementaire. Ce n'est pas du tout l'esprit du dispositif. Le dispositif se veut vraiment le plus simple possible pour les déposants. Une fois que votre demande est reçue, donc cette première phase d'examen de l'éligibilité est faite par le secrétariat, je n'y reviens pas. Et ensuite, nous avons un réseau de correspondants dans chaque ministère qui a lui-même pour mission de trouver le bon bureau ou les bons bureaux compétents sur la problématique qui vous intéresse. Donc nous, on reçoit votre projet. Si votre projet concerne la réutilisation des eaux usées et que cette thématique, cet angle-là, concerne le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement, on a des contacts dans ces ministères qui vont trouver les bons bureaux qui traitent de ces problématiques. Et donc une fois que ces bureaux sont saisis, ils vont faire une double analyse. Ils vont avoir accès à votre demande. Tout d'abord, ils vont devoir faire une analyse juridique de votre demande pour vérifier si votre demande est effectivement éligible. Est-ce que, par exemple, le point auquel vous voulez déroger n'est pas prévu justement par un texte européen, je l'ai évoqué, ou si votre lecture est exacte. Parce que la bonne nouvelle, on peut prendre ça comme le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est que dans quasiment un tiers des demandes qui nous sont adressées, lorsque les administrations sont contactées, elles nous indiquent en fait que le projet est faisable en l'état du droit. C'est-à-dire que peut-être du fait de la complexité ou du fait de la prudence légitime des gens qui nous sollicitent, lorsqu'on demande à l'administration si ce projet nécessite un changement du droit, l'administration nous dit non, en fait, sur la base des articles suivants ou des dispositions suivantes, il est possible de développer le projet que veut porter le porteur. Donc auquel cas, on revient vers le porteur avec une forme de sécurisation juridique. Et puis pour le reste, si le blocage juridique est véritablement avéré, c'est-à-dire si votre projet ne peut pas se faire en l'état du droit français, là, les ministères sollicités vont se prononcer sur est-ce qu'ils souhaitent donner suite à votre demande ou est-ce qu'ils estiment, pour un certain nombre de raisons, qu'il ne faut pas déroger à la disposition ou aux dispositions que vous avez identifiées. Et donc la prise de décision est faite in fine lors de réunions présidées par le cabinet du Premier ministre. Et donc, c'est bien le Premier ministre qui donne une réponse à votre projet. Et donc, maintenant, je vais passer la parole à Olivier qui va pouvoir notamment vous détailler un petit peu plus le type de réponse que nous pouvons vous apporter.
Merci Sébastien. Donc oui, quelles peuvent être donc les issues lorsqu'une demande France Expérimentation est déposée par une entreprise ? Alors tout d'abord, on a les situations où la demande, après expertise par les ministères compétents, se révèle inéligible. Sébastien a indiqué les critères d'éligibilité. On a évidemment des demandes où il apparaît que le blocage peut être de niveau communautaire. Il peut aussi y avoir des demandes où le blocage est de niveau financier et du coup, il y a une impossibilité à pouvoir apporter une réponse favorable et de modifier l'éventuelle règle juridique qui est bloquante par rapport au champ de compétences qui est le nôtre et à la capacité qui peut être celle aussi de l'État français à pouvoir changer des règles. Il y a aussi un certain nombre de dossiers, on va dire une grosse trentaine de pourcents, grosso modo, où, après analyse, la position qui est celle des ministères, assez souvent de manière unanime, va être que, malgré certaines vertus que pourrait avoir le projet, il y a quand même beaucoup d'effets néfastes qui résulteraient du fait de rendre possible une telle activité ou la mise sur le marché d'un tel produit, et ça conduit à ce qu'il y ait une position défavorable au regard des risques donc, qui sont associés. Et ce retour défavorable est souvent partagé par le cabinet du Premier ministre au regard des arguments avancés. Donc il y a tout un certain nombre de dossiers qui ne sont pas du coup débloqués pour les raisons que j'indiquais. Ça peut être par exemple lorsqu'il y a des risques sanitaires ou ça peut être des projets qui sont par exemple dans le domaine du transport et qui pourraient poser des problèmes de sécurité routière, par exemple, dès lors qu'il s'agit de modes de transport un petit peu particuliers ou de modes d'éclairage liés à des véhicules, par exemple. On a eu ce genre de situation qui pouvait provoquer des risques pour d'autres utilisateurs. C'était par exemple le cas d'un véhicule sur lequel on allait rendre possible le fait de mettre des publicités déroulantes. Je crois que c'était sur des vélos et du coup, il y avait un risque que ça puisse gêner d'autres usagers de la route. On a aussi, heureusement, pas mal de projets, environ la moitié, où la solution qui est identifiée est favorable donc à l'entreprise qui a apporté ce projet. Et là, on a trois grands types de solutions possibles. La première, c'est l'essence originelle du dispositif, c'est le fait de mettre en place une expérimentation. Je déroulerai un ou deux exemples tout à l'heure. L'intérêt de l'expérimentation, finalement, c'est quand on hésite entre on réforme ou on ne réforme pas, il y a des risques, mais on voit très bien qu'il y a des avantages qui sont intéressants. Et la phase expérimentale, qui est une phase, on va dire, intermédiaire, elle permet, sur une durée limitée, de pouvoir tester et de voir, par l'exemple, si c'est une bonne chose ou non, à terme, de rendre une telle activité possible pour tous, partout, et de définir le mode de réglementation qui serait le plus protecteur, le plus idoine pour encadrer cette nouvelle activité. Donc l'étape expérimentale, c'est la solution donc, qui est à l'origine du dispositif, je le disais. Et on a aussi d'autres types de solutions qui sont apparues, je les détaillerai aussi juste après. La première, c'est la sécurisation juridique. Sébastien l'évoquait un petit peu rapidement. On a pas mal de demandeurs qui pensent être confrontés à un blocage. Parfois même, ils ont eu recours à des cabinets juridiques qui leur ont indiqué qu'ils estimaient qu'il y a un blocage, mais après donc expertise par les ministères, il apparaît qu'il n'y a pas de blocage ou que, en modifiant quelques paramètres de leur projet qui ne sont pas forcément conséquents, il y a une possibilité de dérouler le projet immédiatement en l'état du droit. Et lorsqu'on a ce type de retour, et ça représente un gros quart des dossiers que l'on a, grosso modo. Ce qui est apporté donc à l'entreprise, c'est une forme de rescrit avec un courrier qui va indiquer que le projet est tout à fait compatible avec la réglementation en vigueur et notamment avec le texte qui avait été identifié comme possiblement bloquant par le porteur de projet. Et on a aussi une autre solution qui apparaît, c'est lorsque l'activité donnée donc, se heurte à un blocage qui est objectivé, mais où il y a consensus de la part des ministères et du cabinet du Premier ministre pour estimer qu'une étape expérimentale n'apporterait pas beaucoup de sens, car finalement, il y a une capacité élevée à pouvoir maîtriser les risques, et cela fait sens de changer le droit tout de suite, parce que finalement, la réglementation est obsolète. Il faut vraiment, là pour le coup, mettre complètement en adéquation le droit avec l'innovation et faire évoluer une norme qui avait sans doute du sens il y a quelques années, mais qui n'en a plus au regard d'une évolution de contexte, d'une évolution d'innovation. Donc on a eu donc des dossiers où ça a conduit donc à cette modification définitive immédiate du droit pour tous, ce qui est la meilleure des solutions, évidemment, pour les porteurs de projets, car ils ont une visibilité sur la durée, ce qui peut être extrêmement réconfortant pour pouvoir investir et développer un projet. Donc si on illustre un petit peu ces grands types de solutions, et notamment la première, qui est celle de mettre en place une dérogation pour pouvoir permettre l'expérimentation, cette expérimentation, pour qu'elle ait du sens au regard des possibilités juridiques qui ont été définies par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, il faut que cette expérimentation elle soit limitée dans le temps. C'est pour ça qu'on est sur des expérimentations lorsqu'elles sont décidées qui sont généralement entre 3 et 5 ans. Il faut qu'il y ait, que soit prévue une évaluation a posteriori, afin qu'on puisse en tirer un bilan et qu'on puisse vraiment décider de la pertinence ou non d'en faire l'état du droit sur la durée. Et il faut définir un territoire et définir aussi un nombre d'acteurs qui pourraient participer à cette expérimentation. S'agissant du territoire, ça peut très bien être le territoire national, comme ça peut être limité à l'échelle d'une ou plusieurs régions, à l'échelle éventuellement simplement d'une ville, voire une échelle encore infra. Nous, on pousse pour que l'échelle soit la plus grande possible, mais c'est très variable en fonction des projets. Et s'agissant de la capacité à pouvoir expérimenter, par définition, si l'expérimentation est décidée, c'est qu'on estime que le porteur de projet qui en est à l'origine apporte les garanties pour pouvoir lui-même expérimenter, mais il ne bénéficiera pas pour autant d'un privilège exclusif à expérimenter, car ça serait contraire au droit qui encadre l'expérimentation en France. Il faut que cette expérimentation puisse être ouverte, alors ouverte sous condition. Il faut que si un protocole est défini, si des règles pour pouvoir expérimenter ont été fixées, pour pouvoir avoir un bon niveau de maîtrise des risques, il faut qu'un autre acteur qui ne serait pas à l'origine de la demande soit en capacité de respecter les règles qui auraient donc été qui ont été fixées. Donc, pour pouvoir vous donner un exemple, on peut prendre l'exemple de l'entreprise Novo Nordisk, qui est une grande entreprise dans le secteur de la santé et qui est notamment le leader mondial de production des stylos à injection d'insuline qui sont utilisés par les diabétiques en France et dans le monde. Et cette entreprise, dans une démarche d'économie circulaire, nous avait saisi en nous disant qu'il souhaitait pouvoir recycler le corps des stylos donc injecteurs utilisés par les patients en autotraitement. Ça représente une quantité assez phénoménale parce que sur le seul marché français, ça représente 25 millions de stylos par an. Et pour pouvoir opérer ce recyclage, il fallait pouvoir changer un texte de niveau réglementaire qui est un article du Code de la Santé et qui prévoyait que ces stylos ne pouvaient être, parce qu'ils sont assimilés à des médicaments non utilisés, qu'ils ne pouvaient être uniquement qu'incinérés. Et après analyse du ministère de la Santé et du ministère de l'Environnement, il est apparu une bonne capacité à pouvoir proposer un système de collecte de ces déchets efficace et sécurisé. Il est apparu que le dispositif d'élimination des risques infectieux qui pouvaient être liés à la manipulation et désinfection de ces documents de ces stylos était de haut niveau, qu'il y avait une maîtrise globale de la chaîne qui ressortait de la demande, et il est apparu donc que ce serait intéressant d'autoriser un tel recyclage pour la première fois en France. Et c'est ce qui a été fait. Il a fallu donc aller modifier du coup cet article du Code de la Santé. Il a fallu que le ministère de la Santé rédige aussi un arrêté spécifique pour encadrer les modalités de ce recyclage. Et l'entreprise a pu commencer en fin d'année dernière ses opérations à l'échelle de 3 régions en France. Et elle vise le recyclage de 5 millions de stylos d'ici à la fin de l'année prochaine, et avec possiblement une capacité à pouvoir être pionnière et inspirer d'autres entreprises qui fabriquent elles aussi ce type de médicaments, à pouvoir faire de même par la suite. Donc voilà, premier exemple d'expérimentation qu'on voulait vous partager. Si on vous expose un exemple de sécurisation juridique à droit constant, on peut évoquer le cas de l'entreprise OK Charge, qui est une start-up dans le domaine de l'énergie et qui nous a sollicité en nous disant qu'il voulait proposer un service d'intermédiation via les téléphones portables ou ordinateurs pour pouvoir permettre à des utilisateurs de véhicules électriques de tout type de pouvoir recharger leur véhicule en ayant accès à des prises qui peuvent se trouver sur l'espace public mais qui appartiennent à des particuliers. Et pour pouvoir identifier ces prises et pouvoir en fait se charger dessus, leur technologie en fait prévoit que les particuliers fassent installer un petit boîtier sur leur compteur électrique Donc, ce qui permet ensuite donc, aux utilisateurs de pouvoir voir où se trouvent des prises et donc pouvoir, via leur téléphone, donc se connecter dessus et charger. Et là, l'entreprise pensait, après avoir mené un travail important d'analyse juridique, elle pensait que le code de l'énergie était bloquant au motif qu'il ne prévoyait cette capacité à offrir de l'énergie qu'à des opérateurs de recharge. Et elle en déduisait que les particuliers ne pouvaient pas être assimilés à des opérateurs de recharge et que donc le droit était bloquant. Et l'analyse qui a été celle de la direction de l'énergie et du climat a été que ce terme d'opérateur de recharge, il fallait l'entendre au sens large et qu'il avait été rédigé ainsi il y a plusieurs années dans le code de l'énergie parce qu'il n'avait pas été envisagé la possibilité pour des particuliers d'offrir de l'énergie, mais que rien n'était bloquant au regard de l'analyse qu'on pouvait faire de cette notion d'opérateur de recharge, en particulier l'analyse faite par le juge administratif, et que en l'état du droit, donc cette activité que voulait faire OK Charge était tout à fait possible, et une sécurisation juridique lui a été apportée avec un courrier qui a permis à l'entreprise donc du coup d'avancer et de commencer aujourd'hui à proposer son service. Et on a eu aussi parmi nos illustrations de cas où des demandes France Expérimentation ont pu aboutir à une modification générale du droit. On a aussi l'exemple d'Acoprev, qui est une histoire un petit peu par étapes et un petit peu complexe, mais si on la résume, cela concerne la capacité à faire de l'autopartage en matière de consommation électrique. Et initialement, cette capacité d'autopartage ne pouvait être possible que sur une échelle géographique extrêmement limitée, de quelques centaines de mètres, ce qui était très limitant, notamment en zone rurale. Et la structure Acoprev, cette association qui est basée sur le plateau du Vercors, où évidemment la densité d'habitat est assez limitée et où il y avait néanmoins un enjeu important à pouvoir permettre de l'autopartage en matière d'électricité, a réussi à convaincre les pouvoirs publics du bien fondé qui serait celui de pouvoir élargir cette capacité à faire de l'autopartage et en plusieurs étapes. Sébastien pourrait vous raconter ça durant un temps assez long parce qu'il connaît finement le dossier. Mais en plusieurs étapes, le droit a été revu et aujourd'hui, il est possible de faire de l'autopartage sur une zone de 20 km, ce qui a permis de développer assez considérablement cette possibilité-là. Et ça présente évidemment beaucoup de sens dans le contexte actuel et avec les problématiques de sobriété et d'augmentation des tarifs de l'électricité.
Permet peut-être un instant, ce qu'on souhaitait vous présenter avec ces exemples, c'est vraiment la nature très différente des acteurs et des sujets à Acoprev. C'est vraiment une association de citoyens qui veulent partager leurs panneaux photovoltaïques, etc. Et pourtant, in fine, c'est la loi qui a été, enfin, c'est le cadre juridique qui a été modifié pour tous. De l'autre côté, on a un leader mondial, une grande entreprise industrielle et aussi une start-up. Mais c'est vraiment, voilà, pour illustrer que tous les acteurs peuvent nous solliciter et qu'on ne réserve pas certaines solutions à des acteurs d'une certaine taille. C'est vraiment, on va dire, c'est un peu de l'ordre de la boîte à idées. Si vous avez un blocage d'un sujet et si les pouvoirs publics estiment que votre demande fait sens, il y a cette capacité à faire évoluer les règles pour vous et pour les autres bénéficiaires pour lesquels vous aurez ouvert la voie.
Oui, complètement. Et on accorde évidemment le même intérêt à toutes les demandes, quelle que soit la taille des entreprises, et on a un nombre notamment très conséquent de start-up qui nous saisissent aussi, parce que souvent ils sont dans des domaines assez innovants où le droit n'est pas toujours très finement défini et où les règles peuvent être des fois plus restrictives que dans d'autres secteurs. On a aussi des thématiques qui concernent beaucoup de demandes. Hein. On est multithématique, on le disait, pas de restrictions en soi, mais dans les faits, on a pas mal de demandes dans le champ de la santé, de l'environnement, du logement ou du transport en particulier. Et avec donc l'approche de France Expérimentation, c'est vrai que ça permet de construire finalement le droit d'une manière un peu plus agile en étant vraiment dans l'écoute du terrain. Alors le dispositif n'a peut-être pas la notoriété qu'il faudrait encore. On a sans doute beaucoup de blocages juridiques qui ne nous remontent pas, beaucoup d'entreprises qui peut-être renoncent à des projets alors que pourraient être potentiellement rendus possibles dans le cadre d'une saisine et d'une analyse qui résulterait de notre dispositif. Mais le dispositif que l'on anime avec Sébastien est un dispositif qui est assez unique, évidemment gratuit pour les entreprises, et qui permet donc de croiser les regards, vous l'avez compris, des différents ministères, et notamment d'arriver à pouvoir faire dialoguer des experts de différents ministères et arriver à sortir des fois des faits un peu silos qui peuvent empêcher des évolutions du droit. Car là, pour le coup, on a vraiment un regard multi-ministère et cette capacité à avoir l'arbitrage qui peut tenir compte des différents regards et éventuellement permettre de dépasser la simple position de l'administration qui est à l'origine de la réglementation bloquante. Dans les faits, on a eu plus de 400 demandes depuis 2016, une cinquantaine d'expérimentations qui ont été arbitrées, mais on le disait tout à l'heure, à peu près la moitié des demandes qui ont tenu une issue favorable à travers les différentes formes qu'on a pu évoquer lors de notre intervention. On va laisser nos contacts affichés pour que vous puissiez les noter si vous le souhaitez. Comme le disait Sébastien, si vous nous contactez, on fera en sorte, grosso modo, dans la semaine qui suit, de pouvoir caler un échange avec vous pour mieux connaître votre blocage et voir si ça pourrait être éligible ou non. C'est évidemment important pour nous d'avoir ces temps d'échange et de pouvoir être très ouvert à la réception de nouvelles demandes. Donc n'hésitez pas en cas de doute. Et on a prévu dans le cadre de ce webinaire un temps assez conséquent pour pouvoir écouter vos questions et essayer d'y répondre. Voilà, j'ai envie de dire la parole est à vous. N'hésitez surtout pas à intervenir.
Ok, merci Sébastien, merci Olivier. Si vous avez donc des questions, vous pouvez, n'hésitez pas à les poser dans le chat du webinaire. Moi, j'ai encore deux questions qui avaient été posées la dernière fois et que je pense restent pertinentes pour ceux qui appellent une réponse. La première, c'était donc vis-à-vis du droit européen, à la fois est-ce que ça s'applique et aussi est-ce qu'il existe un dispositif similaire pour le droit européen. Je connais la réponse, mais...
Et vous avez raison, merci Arthur. Alors, en fait, effectivement, vraiment sur le droit européen, donc c'est vraiment un point de blocage dur, puisque de manière simple, effectivement, tous les États se mettent d'accord, enfin, les États membres se mettent d'accord sur des droits et des obligations, et donc il serait pas possible qu'un pays de son côté se délie, notamment de ses obligations. Donc c'est vrai que si par exemple l'obstacle sur votre marché c'était que la réglementation européenne disait qu'il est impossible de commercialiser tel type de produit, c'est pas la France toute seule qui pourrait le faire. Après, il y a beaucoup de subtilités, puisque parfois le droit européen permet aux États d'envisager des tests ou des dérogations, ou parfois le droit européen, vous entendez souvent parler de transposition, fixe des grands principes, et ensuite les détails sont laissés à la main des États. Donc nous, on vous demande pas d'être expert en droit européen, vous avez sûrement mieux à faire et c'est compliqué, donc à vous de nous dire quel est le blocage qui, en France, vous pose problème. Et c'est plutôt nous qui allons vous dire si ce blocage, on tombe dans du dur européen qu'on peut pas modifier, ou si c'est du 100% français, ou si c'est du 50% français et du 50% européen, mais que finalement, c'est la partie qui est laissée à la main de la France et donc qu'on peut y déroger. Donc voilà, là-dessus vraiment, il n'y a pas du tout de filtre où on vous exigerait d'avoir fait cette analyse qui est extrêmement complexe et qui revient au ministère. Et peut-être sur le deuxième point, Olivier.
Pour compléter les propos de Sébastien, on a été en contact il y a à peu près un an avec des personnes de l'OCDE qui avaient découvert notre dispositif et qui souhaitaient en savoir davantage. Et à cette époque-là, en tout cas il y a un an, ce que nous disait l'OCDE, c'était qu'il n'y avait pas l'équivalent de France Expérimentation dans d'autres pays de l'Union européenne. Eux, ils estimaient que le dispositif... correspondait très bien à des recommandations qu'ils ont pu émettre en matière de réglementation agile, où ils essaient d'inviter, par leur influence, les États à essayer d'avoir de nouvelles modalités de construction du droit, notamment en étant dans une plus grande démarche parfois de concertation, en étant dans cette capacité à pouvoir rendre possible l'expérimentation pour pouvoir comme ça tester les choses, être ouvert à l'innovation et pouvoir accepter de prendre des risques pour donc permettre l'innovation et permettre donc du coup le développement économique qui peut y être associé. Et donc l'OCDE avait du coup été intéressé et souhaitait promouvoir un petit peu la démarche France Expérimentation auprès d'autres pays. On ne sait pas où cette action en est et si d'autres pays éventuellement se sont lancés ou réfléchissent à des dispositifs un petit peu équivalents, mais espérons que peut-être dans quelques années, au sein de l'Union européenne, que ce soit au niveau des institutions même de l'Union européenne ou au sein d'autres pays, il puisse y avoir une démarche un petit peu équivalente qui puisse du coup permettre d'accorder un peu plus d'espace finalement à l'innovation et être dans une culture qui plus ouverte, plus ouverte culture de la part des pouvoirs publics, plus ouverte envers l'innovation, et ce qui nécessite donc d'accepter cette prise de risque et accepter aussi de fixer des règles qui peuvent être un petit peu différentes selon les acteurs. Et ça heurte un petit peu notre conception du droit en France, où on est dans une conception finalement très égalitaire du droit, avec des règles fixées pour tous à l'identique. Et le droit à l'expérimentation, c'est cette capacité à pouvoir, avec des ajustements et avec un encadrement, et de manière temporaire, mais c'est cette capacité à pouvoir éventuellement fixer des règles dérogatoires au nom de l'innovation et des avantages qu'elle peut avoir.
Pour compléter là-dessus, si je puis me permettre, donc le MEDEF porte aussi l'idée de pouvoir répliquer un peu ce droit à l'expérimentation au niveau européen. Aujourd'hui, ce qui existe au niveau européen, c'est surtout des bacs à sable réglementaires, des sandboxes, avec des nouvelles d'ailleurs qui vont être mises en place prochainement concernant la blockchain. Mais la logique européenne aujourd'hui adoptée est surtout en amont du droit de pouvoir permettre ces expérimentations afin de s'en inspirer pour construire la législation européenne, alors que France Expérimentation vise aussi l'aval ensuite et faciliter l'expérimentation à ce niveau-là, ce qui est plus original pour l'Europe.
Merci. On a une autre question sur le chat. Avez-vous la possibilité de faciliter l'expérimentation de produits en attendant leur autorisation de mise sur le marché par l'ANSES ?
C'est une très bonne question. Malheureusement, non, mais c'est vrai qu'on est souvent sollicité pour ce type de questions parce qu'on sait que c'est des processus qui sont longs et assez coûteux. Mais au regard des risques et des enjeux, enfin, il n'y a pas de possibilité de déroger. Hein, dans l'absolu, nous, on aimerait bien, mais là-dessus, c'est une question qui nous revient relativement régulièrement. Quelque chose qu'on se doit de préciser aussi, c'est que quand on dit on peut lever des blocages juridiques, on a un mandat assez précis. Mais encore une fois, c'est nous qui le préciserons avec vous. On vous demande pas de connaître le mode d'emploi par cœur. Si jamais il existe déjà une procédure qui permet de développer votre projet, même si cette procédure elle peut être jugée et souvent sûrement légitimement comme longue ou coûteuse, nous on est vraiment là si vous êtes face à un mur. Si malheureusement vous estimez que la porte qui vous permet de rentrer est un peu trop étroite, ou quand nous on sollicite les ministères, ils nous disent il est possible de développer ce produit en respectant les procédures suivantes, dans ce cas-là, nous on peut pas déroger aux règles en place. Pourquoi ? Parce que ce que disait Olivier, il y a le principe d'égalité devant la loi en France, et donc si vous bénéficiez d'une fast track, évidemment un de vos concurrents pourrait légitimement dire « mais c'est scandaleux, moi j'ai dépensé 15 000 euros et j'ai pris 18 mois, pourquoi l'entreprise d'à côté, elle a pris 3 mois et elle l'a fait gratuitement ?» Donc on est obligé d'apposer, enfin c'est légitime et je pense que tout le monde le comprend pour une logique de concurrence, on est obligé d'imposer les mêmes règles, même si parfois on peut partager avec vous que des règles plus simples, plus rapides seraient mieux. Mais voilà, s'il y a déjà une voie qui est identifiable, on vous la signalera, mais on ne pourra pas vous donner un coup de fil, pour dire simplement. Donc dans le cas d'espèce, il y a déjà des règles prévues par l'ANSES, on ne peut pas y déroger, ou la NSM si on est sur des médicaments.
Et l'année de même, s'agissant des procédures ICPE pour les installations classées, protection de l'environnement, où on a eu pas mal d'entreprises qui nous ont sollicité parce qu'effectivement, il y a une démarche administrative d'autorisation environnementale ou autre qui prend, je ne maîtrise pas les délais, mais 6 mois, 1 an, ou peut-être plus dans certains cas. Et pas mal d'entreprises espéraient, en nous sollicitant, pouvoir être dispensées de cette démarche administrative ICPE, en nous disant que pour des raisons d'avance technologique, d'investissement, il était fondamental qu'ils puissent se lancer immédiatement. Et là, malheureusement, effectivement, on n'a pas de possibilité parce que cette démarche administrative ICPE, déjà, le ministère de l'Environnement va nous dire que, et à juste titre, qu'il y a déjà une réglementation est un processus existant et que donc il n'y a pas un blocage juridique en soi, simplement il faut suivre des étapes pour pouvoir être autorisé. Et par ailleurs, il y a des enjeux environnementaux et des risques dans différents domaines qui justifient qu'il y ait une analyse fine de ces demandes et de ces dossiers qui soient faites et qu'on n'autorise pas des entreprises, qu'on ne leur permette pas d'être dispensées de cela. Donc nous, notre capacité effectivement à intervenir, comme le disait Sébastien, il faut qu'il y ait un blocage en dur, une incapacité finalement à développer l'activité et pas en fait des entraves ou difficultés qui sont simplement de l'ordre de l'administratif, de l'ordre du coût pour pouvoir être autorisé.
Peut-être pour compléter, parce que je pense que c'est une question qui peut interroger, enfin qui peut intéresser tout le monde. On peut aussi avoir des demandes complexes, c'est-à-dire vous pouvez avoir différents types de blocages et qui ne vont pas apporter la même réponse. C'est ce qu'on indiquait, peut-être que vous, pour développer votre projet, vous allez identifier 4 ou 5 difficultés juridiques. Peut-être que pour certaines, il s'avérera qu'en fait, elles peuvent être levées en l'état du droit, qu'il y a des dispositions en l'état du droit. Et puis sur d'autres, effectivement, il y a peut-être un blocage réel sur lequel on pourrait, les pouvoirs publics pourraient envisager une dérogation expérimentale ou une modification du droit. Donc vraiment, l'idée, c'est que vous arriviez avec votre projet dans sa globalité, et c'est nous, pouvoirs publics, qui allons aussi l'expertiser, et en fonction des blocages, les réponses pourraient aussi être combinées. Peut-être une...
On a peut-être d'autres questions qui arrivent. Il y avait une question qui était revenue la dernière fois, qui était sur le risque assurantiel, donc la possibilité de être sûr que les entreprises qui auront accès à ce type d'expérimentation seront bien couvertes dans le cadre de leur assurance.
Alors oui, là-dessus, il n'y a pas de, on n'est pas expert en assurance, mais ce qui est très important, et ça va me permettre probablement d'anticiper une deuxième question qui va peut-être être combien de temps ça prend. Qui est quand même une question assez décisive qu'on avait volontairement laissée de côté en pensant qu'elle nous serait posée, mais je pense qu'on peut y répondre aussi. Comme on vous le disait, France Expérimentation, c'est pas du tout, et heureusement, quelque chose qui vous serait accordé individuellement. C'est-à-dire, il ne s'agit pas pour vous de nous convaincre, Olivier et moi, du bien fondé de votre projet pour qu'on vous dise « Banco, allez-y, on se porte garant ». On aimerait peut-être bien pouvoir le faire, mais on a des pouvoirs beaucoup plus modestes. Donc, si la décision est prise, elle va engager l'ensemble des utilisateurs en France ou l'ensemble des bénéficiaires sur le territoire d'expérimentation. Donc, c'est pas quelque chose qui serait fait en douce, si je puis me permettre. Si jamais une dérogation est permise, par exemple, quand Novo Nordisk fait son process, en fait, c'est permis en France. Et si un autre acteur, dans le cas d'espèce, il n'y a pas des dizaines et des dizaines d'acteurs du traitement de l'insuline au niveau mondial, mais je connais pas le marché, mais si le concurrent de Novo Nordisk était établi en France et disait « je veux faire la même chose », il a la même capacité à le faire dès lors qu'il dépose le dossier et qu'on vérifie sa capacité à le faire. Et si l'État lui disait non, il devrait se justifier sur pourquoi il l'a autorisé pour A et pas pour B. Donc, à titre assurantiel, vous n'êtes pas dans une expérimentation. Vous appliquez le droit, c'est simplement que l'État s'est dit « moi, je veux me donner le temps de tester cette règle pendant 3-4 ans ». Et si elle est bien faite, on la généralisera. Si elle est très mal faite, on l'arrêtera. Ou peut-être qu'on va se rendre compte qu'à 90%, on avait frappé la cible, mais qu'il y a 2-3 choses qui sont irritantes pour les utilisateurs ou pour nous. Et au moment où on va généraliser, en fait, on vous donne le modèle et puis on finalise le modèle avec vous pour être sûr qu'il soit sur mesure pour vous et idéalement sur mesure pour tout le monde. Donc quand vous exercez, vous n'êtes pas en sursis en tant que tel, vous appliquez la réglementation. Donc là-dessus... Moi, spontanément, je vois pas pourquoi il y aurait une difficulté assurantielle. Vous respectez la réglementation française totalement. Et donc, sur la durée, puisque je l'évoquais, selon les solutions, la durée n'est pas la même. Alors, la meilleure solution, la meilleure hypothèse pour nous, c'est qu'on puisse revenir vers vous en vous disant que c'est faisable en l'état du droit. Parce que parfois, les administrations disent, comme le disait Olivier, « Ah, mais ce projet, c'est dommage, parce que s'il était modifié à 5%, il pourrait se faire en l'état du droit ». Vous ne le savez pas, ou par exemple, vous envisagez de mettre 3 produits sur le marché, et finalement, vous avez fait une demande sur le produit 2, et l'administration veut dire, mais si vous le faisiez sur le produit 3, vous pourriez le faire aujourd'hui sans modification. Et dans ce cas-là, peut-être que dans votre business model, finalement, c'est pas très significatif de lancer 2 ou 3. Donc là, on est vraiment dans l'aide avec vous. Ou alors, parfois, vous pensiez comme OK Charge qu'en toute bonne foi, vous n'aviez pas le droit de le faire,
Et miracle, l'administration vous dit si, si, vous pouvez parfaitement le faire, on vous l'écrit, on vous le confirme. Donc, aucun risque pour vos investisseurs, aucun risque avec les services de contrôle. Donc ça, la rapidité, elle dépend du retour des administrations. On va dire, en général, ce type de retour, on peut les avoir en 2-3 mois avec la formalisation. Après, si ça va devant le cabinet du Premier ministre, sur les autres types de réponses, évidemment, ça dépend de la disponibilité que le Premier ministre veut bien nous accorder. Donc, le rythme est un peu fluctuant, mais en général, on va dire qu'on a 2 à 3 réunions France Expérimentation par an. Donc, on pourrait dire un peu entre trimestriel et semestriel. Et si malheureusement, à l'issue de cette réunion, on vous dit bah, « votre projet nécessite de changer le droit, mais on ne veut pas », le process s'arrête là. Donc, entre le moment où vous déposez et le moment où vous avez une réponse du cabinet du Premier ministre, en général, c'est souvent peut-être 5-6 mois. Alors, il y a eu des phases où là, entre les deux élections, il y a eu une phase beaucoup plus longue, on a eu moins de réunions. Il n'y a pas d'engagement, c'est le Premier ministre qui nous donne ses disponibilités. Et après, en revanche, s'il faut changer le droit, malheureusement, c'est assez long, puisque c'est les procédures habituelles. Donc, on va être très transparent. Si on prend l'exemple de Novo Nordisk, entre le dépôt du dossier et le démarrage de l'expérimentation, il s'est passé, je crois, de mémoire, 17 mois. Ce qui est un temps assez classique et honnêtement, on a pas mal mis le bleu de chauffe pour faire accélérer les choses. Évidemment, nous, on souhaiterait toujours que ça soit possible en très peu de temps, mais il a fallu prendre 3 textes spécifiques, 3 modifications. Il a fallu d'abord l'analyse, l'arbitrage du Premier ministre, la modification des textes. Donc, si vous arrivez sur un projet qui nécessite de changer le cadre juridique français, j'ai envie de dire, comme les dossiers sont très légers et gratuits, plus vous le faites en phase amont, plus c'est efficace, parce que nous, on ne va pas attendre que votre projet soit réalisé. De la même façon, peut-être pour les entreprises, c'est important de le préciser, vous ne prenez aucun engagement. C'est-à-dire qu'on a des cas où, malheureusement pour les entreprises, on a modifié le droit, mais entre le moment où ils avaient déposé le dossier et le droit a été modifié, soit certaines entreprises, parce que c'est des startups, ont disparu, soit elles sont passées à autre chose. C'est-à-dire que vous ne prenez pas un engagement moral. L'État vous ouvre cette capacité, mais à d'autres acteurs. Mais c'est pas parce qu'on vous permettrait de faire de l'autoconsommation collective que vous prenez un engagement pendant 5 ans de le faire. Donc le réflexe qu'on pourrait vous donner, c'est sollicitez-nous le plus en amont possible, parce que comme il y a déjà un délai de 5-6 mois pour savoir si c'est faisable en l'état du droit ou si le Premier ministre, a priori, donnerait un accord de principe, ça peut vous permettre de tester des hypothèses ou des scénarios et de se dire bah, « banco, les pouvoirs publics sont prêts à nous accompagner ». Donc, on va pouvoir développer le projet. Ce qui est frustrant, c'est quand un acteur vient nous voir et nous dit « j'aimerais bien lancer mon produit dans 2 mois ou dans 1 mois, mais je comprends que tel aspect du droit est bloquant ». Et là, si on revient vers l'acteur et qu'on peut vous dire bah, « bonne nouvelle, vous pouvez le faire en l'état du droit », ça passe. Si on vous dit bah, « maintenant, il faut trouver une loi et que la loi soit adoptée », malheureusement, ce ne serait pas réaliste de vous dire que ça va se faire en moins de 12 ou 18 mois. Mais donc, vraiment, peut-être pour être très concret, un dossier France Expérimentation, c'est un dossier en ligne où vous indiquez qui vous êtes, quelle est votre activité, quel est le projet innovant que vous voulez développer, en quoi il vous paraît sociétalement intéressant au-delà de l'intérêt pour votre structure. Et puis ensuite, vous nous indiquez, à votre sens, quel est le blocage juridique et éventuellement, quel est le territoire d'expérimentation que vous voudriez, la durée d'expérimentation, le démarrage et les éléments d'évaluation que vous pourriez fournir. Et là, on va rentrer dans un dialogue avec les pouvoirs publics où on va accepter votre projet, et si on l'accepte et que le Premier ministre dit « oui, c'est une bonne idée », si on choisit la voie expérimentale, on va coécrire l'expérimentation avec vous. Peut-être qu'on va vous dire « vous vouliez le faire partout en France, on préférait que ça soit dans 3 régions dans un premier temps », ou à l'inverse, vous, votre entreprise est basée dans le département du Nord, et peut-être que l'État va se dire « bon, bah, nous, on veut ouvrir l'expérimentation à tout le monde partout en France ». Donc vous venez avec vos propositions, et c'est vraiment un dispositif où on part de la base, on part de vos besoins. Mais ensuite, l'État, évidemment, il a une réflexion plus structurelle pour l'ensemble des acteurs. Mais en tout cas, pour être très concret, on a des dossiers, quand on les imprime plus, mais si on les imprimait, on a des dossiers qui vont faire 2 feuilles A4. Donc on n'est pas dans un dossier technique de 800 pages. C'est qui vous êtes, pourquoi vous avez un projet innovant et que vous pensez qu'il est bien, et pourquoi vous pensez qu'il y a un blocage juridique. Donc il ne faut pas nous dire « oulala, le droit c'est compliqué, je ne sais pas ce qui bloque, mais j'ai peur ». Mais si vous nous indiquez que c'est l'article L34.2 du Code de la Santé et que vous vous êtes trempé, qu'il y a aussi le RX ou qu'il y a d'autres dispositions, ça, c'est pas votre problème. Nous, on interroge les ministères et c'est à eux de nous dire si vous avez bien visé le bon article, s'il y en a d'autres, si vous avez mal visé. Donc, ça nécessite pas 5 heures d'analyse juridique par vous-même ou par un expert juridique. C'est
Mais voilà, il faut arriver en disant c'est telle disposition qui me semble m'empêcher de développer mon projet. Je ne sais pas si ça.
Du coup, je me demandais, donc c'est en moyenne 17 mois lorsqu'on doit passer par véhicule législatif, en plus parce qu'il faut éviter des cavaliers législatifs, je suppose. Lorsque c'est réglementaire, lorsque la disposition réglementaire, on est sur
un délai. C'est variable parce que on a des dossiers où la modification réglementaire, ça peut être très simple. Par exemple, ça peut être juste une valeur qui apparaît dans un article d'un arrêté ou d'un décret simple. Et il peut s'agir par exemple de modifier 1 km par 10 km, auquel cas il suffit de prendre un arrêté modificatif à l'arrêté qui est bloquant et de dire finalement en deux articles et de dire dans l'article numéro tant de l'arrêté X, la valeur 3 est remplacée par la valeur 30, auquel cas finalement le périmètre géographique peut être modifié et c'est très très simple, ça ne nécessite que quelques semaines que de prendre cet arrêté, le faire signer, le faire publier. On a des expérimentations où les modifications réglementaires peuvent être beaucoup plus lourdes. Novo Ordre 10 en est une illustration, parce qu'en l'occurrence, le blocage, c'était un décret en Conseil d'État. Donc, il a fallu prendre un décret qui modifiait le décret bloquant, donc le soumettre à l'analyse du Conseil d'État. Et il fallait par ailleurs rédiger, c'est le ministère de la Santé qui l'a fait, tout un arrêté qui allait définir cette procédure, parce qu'il s'agissait d'une activité néanmoins quand même à risque, et il y avait un souhait de bien l'encadrer en définissant les possibilités de traitement qui pouvaient être compatibles, les modalités de dépôt d'un dossier, quelles pièces devaient fournir, etc. Donc ça a été, ce travail d'élaboration et de rédaction juridique a été du coup long, donc là on a été sur un délai qui effectivement était de l'ordre d'un an et demi, mais ça peut être, comme je le disais, beaucoup plus rapide si le texte a modifié. La modification est assez mineure en soi, mais il faut en passer par l'étape normale d'élaboration du droit. Donc si c'est un décret qui est bloquant, il faut prendre un nouveau décret. Si c'est un arrêté, il faut réviser, prendre un arrêté qui vient modifier l'arrêté qui est bloquant. Si c'est un blocage de niveau législatif, on peut le voir lorsque c'est la lettre L qui est au démarrage de la référence juridique, alors il faut en passer par soit un article dans un projet de loi ou soit un amendement à l'occasion de l'adoption d'une loi dont le sujet n'est pas à l'opposé de la thématique qui convient de modifier. Donc le délai peut être finalement assez variable en fonction du niveau des problématiques, mais dans tous les cas, ce qu'on n'est pas capable d'offrir comme solution au regard des règles qui nous encadrent et des règles juridiques de notre état de droit, ce qui n'est pas possible, c'est de modifier une norme bloquante en quelques semaines. Ça, c'est pas possible. Donc on est sur des délais qui se comptent en mois et qui peuvent dépasser une année dès lors que donc il faut définir tout un cadre expérimental.
Peut-être pour être très concret, parce que je pense que c'est les points les plus importants. Sur France Expérimentation, on a trois vraies étapes. Un, alors je passe l'éligibilité parce que Olivier et moi, en général, on échange avec vous sous une semaine, 10 jours, et on voit si votre dossier est éligible ou pas et on le lance. Ensuite, il nous faut quelques semaines, on va dire entre 6 semaines et 10 semaines pour que les ministères fassent leur retour. Parfois, certains se font malheureusement un peu tirer l'oreille, si je puis le dire, mais voilà, pour vous dire déjà si votre projet, il y a bien un blocage juridique ou non et quelle est la nature. Donc ça, c'est quelques semaines. Ensuite, il faut la réunion à Matignon. Donc dès qu'on en a une, on présente votre dossier dès lors qu'il est mûr. Et là, soit le projet s'arrête si on vous dit qu'on ne veut pas déroger à la norme. Mais ensuite, s'il faut modifier la norme, là, il y aura le process de modification de la norme. Et comme le disait Olivier, ça va dépendre s'il y a un seul texte à modifier, deux, trois, parfois ça arrive. Parfois, c'est en cascade. Il faut d'abord créer le 1, puis après créer le 2, puis après créer le 3. Et donc parfois, cette deuxième étape peut être rapide ou longue. Mais en revanche, ce qu'on peut penser, c'est qu'entre le moment où vous déposez un dossier et le moment où on peut vous donner une réponse sur est-ce que votre projet est faisable en l'état du droit ou est-ce que les pouvoirs publics, le Premier ministre, est d'accord pour modifier le cadre juridique, on peut penser que l'échéance de 6 mois, elle est raisonnable. On ne peut pas du tout vous le garantir parce qu'il y a des périodes où il n'y a pas de réunion avec le cabinet du Premier ministre, où il y a des périodes où les ministères sont un peu en retard. Mais la première étape pour savoir déjà si vous pouvez faire votre texte, enfin votre projet, et être sécurisé en droit
ou si vous aurez le feu vert ou le feu rouge des pouvoirs publics pour une évolution, c'est à peu près de cet ordre-là. Mais la dernière chose que je voulais préciser qui est importante, c'est que nous, on est toujours à votre disposition à n'importe quel moment pour vous dire où en est votre projet, parfois pour vous dire malheureusement, on attend toujours tel retour, ou aussi pour vous partager de manière un peu informelle les retours des ministères. Mais ça ne peut être qu'informel parce que, comme on vous le précisait, c'est une décision qui engage le cabinet du Premier ministre, le Premier ministre. Donc, même si 3 ministères sollicités étaient favorables à votre projet, in fine, cette décision, elle est prise à l'étage supérieur. Mais on peut vous expliquer quelles sont les contraintes, quels sont les points qui ont été mis en avant. Il y a une volonté d'être le plus fluide et transparent, mais il y a des cadres juridiques qui sont aussi sécurisants pour vous. Et donc, la décision, elle, sans l'ombre d'un doute, elle revient au Premier ministre et à son cabinet. Et tant que cette décision n'a pas été prise, tous les autres points sont conditionnels. Et de manière fréquente, on organise souvent des réunions entre vous, mais entre les entreprises et les ministères, parce que votre dossier peut être très court. Et si les ministères ont besoin de précisions et de clarifications, évidemment, on organise des téléconférences pour que vous puissiez présenter votre projet en live, on va dire, et que les ministères puissent vous demander des précisions pour vous aider ou les aider à analyser plus précisément votre demande.
J'ajouterais juste que, évidemment, nous préservons la confidentialité de vos projets. Seuls quelques experts auront accès au contenu de votre demande et seront amenés à se prononcer dessus. Nous ne publions pas la liste des entreprises qui ont fait appel à France Expérimentation. Lorsqu'on communique sur des solutions qui ont été apportées, c'est que le dossier est bouclé, a obtenu un avis favorable et que l'entreprise concernée a donné son accord pour que l'on communique à travers une vidéo ou une interview sur l'historique et la solution qui a été apportée. Et donc, outre cette confidentialité qui est celle liée au dépôt d'une demande et au fait que donc vous ne serez pas pillé d'une bonne idée en venant solliciter France Expérimentation, outre cet aspect-là, ce que l'on peut dire, c'est que introduire un dossier France Expérimentation ne vous prive pas d'autres possibilités de pouvoir sensibiliser les pouvoirs publics sur le bien fondé de l'innovation qui est la vôtre et sur le caractère inadapté d'une règle juridique qui l'empêcherait. Vous avez tout à fait la possibilité en parallèle d'être en contact avec votre préfet, d'être en contact avec votre député, de solliciter directement le ministre qui est compétent au regard de la réglementation bloquante. Vous pouvez avoir ces initiatives parallèles si elles vous semblent judicieuses, ou des initiatives dans le cadre d'une structure interprofessionnelle, via le MEDEF par exemple, pour essayer de porter une idée de réforme. Donc vous pouvez tout à fait avoir finalement plusieurs stratégies en même temps pour essayer de faire changer une règle de droit. Le fait donc de s'adresser à France Expérimentation ne vient pas limiter votre capacité donc d'influence par ailleurs.
Nous, ce qu'on peut vous garantir, c'est si votre demande est éligible, d'abord si elle ne l'est pas, on vous expliquera pourquoi, on échangera avec vous, évidemment, et on essaiera de vous orienter si on connaît, nous, dans notre modeste culture administrative, si on connaît les alternatives qui vous permettraient d'avancer. Évidemment, on essaiera de vous orienter, on ne peut pas, on n'est pas un guichet d'orientation parce que nos forces sont malgré tout modestes et on a pas mal de dossiers en cours. Mais voilà, si on se rend compte qu'il y a une alternative qui vous permettrait probablement d'avancer, on sera très heureux de vous l'identifier. Mais si votre projet est éligible, on ne peut pas vous garantir qu'il y aura un retour positif puisque, comme on vous l'a dit, c'est une décision qui se prend au plus haut niveau. Mais on va solliciter tous les ministères concernés pour vous et votre dossier sera examiné par le cabinet du Premier ministre avec les avis des ministères. Donc tout ce travail qui peut être très complexe et très chronophage, voilà, c'est nous qui le faisons. Mais comme le disait Olivier, on n'a pas le monopole de l'expérimentation ou changement d'une règle. Donc si par un autre canal de votre fait ou alternativement les règles changeaient en votre faveur, nous on s'en réjouirait. Mais nous on a un process, on va dire, de sollicitation, d'interpellation et de traitement administratif de vos demandes pour essayer d'accompagner les plus pertinentes, voilà, et faire ce travail à votre place.
Ok, ce webinaire touche à sa fin. Merci à tous d'avoir pu participer. Merci à Sébastien et à Olivier d'être venus faire cette présentation. Donc, je pense que le message est bien passé. N'hésitez surtout pas, ne bloquez pas vos projets innovants simplement sur la base d'un préconçu administratif ou juridique. Et n'hésitez pas à contacter France Expérimentation pour voir avec eux comment peut s'organiser la mise en œuvre de votre projet. Donc vous avez tous les contacts et n'hésitez pas non plus à revenir vers nous si vous avez des questions ou à vous adresser directement à France Expérimentation. Merci à tous et bon après-midi.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'académiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt.